Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Maïlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Deuxième temps de notre semaine que nous consacrons aux liaisons dangereuses, aux relations troubles entre politiques et religieux. Hier, nous parlions de l'AKP turque et plus largement des victoires électorales des partis islamistes. Aujourd'hui, cap à l'Est, où les répliques de la guerre russo-ukrainienne se font sentir aujourd'hui jusqu'au sein de l'église de Kiev à Moscou. Divorce à l'orthodoxe, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous, les Ukrainiens, nous ne cherchons pas la confrontation car nous ne voulons pas donner à Moscou le prétexte de s'immiscer dans nos affaires intérieures. Nous avons attendu longtemps et nous pouvons attendre un peu plus longtemps.
La situation que nous connaissons aujourd'hui, dans laquelle le patriarcat de Constantinople s'immisce avec cynisme dans les affaires d'une autre église autocéphale, étouffe non seulement le dialogue, mais crée également le danger d'un grand schisme dans le christianisme orthodoxe. Nous, représentant l'église russe, ne reconnaîtrons pas cette autocéphalie et nous n'aurons pas d'autre choix que de rompre notre relation avec Constantinople.
À l'instant, le patriarche Filarète de l'église orthodoxe de Kiev, auquel répondait le président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite Hilarion, théologien et évêque orthodoxe russe. Le 11 octobre dernier, le synode du patriarcat orthodoxe de Constantinople reconnaissait l'indépendance de l'église orthodoxe ukrainienne vis-à-vis du patriarcat de Moscou. Après 332 années de tutelle, l'église ukrainienne s'émancipe donc de la tutelle russe. Quatre jours plus tard, le patriarcat de Moscou rompait ses relations avec le patriarcat de Constantinople. Comment comprendre cette crise dans le monde orthodoxe? De toute évidence, les enjeux semblent largement dépasser les seules considérations théologiques et il s'agit de replacer les choses dans un contexte plus général. En effet, ici, l'histoire, la politique et même la géopolitique semblent jouer à plein. Alors, comment décrypter les enjeux de ce nouveau schisme et quelles pourraient en être les conséquences? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Antoine Arjakovski. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins et puis fondateur de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv, en Ukraine. Quel regard portez-vous, Antoine Arjakovski, sur ce nouveau schisme dans l'orthodoxie et de quoi l'indépendance de l'Église orthodoxe ukrainienne vous semble être le nom?
Moi, je vois surtout l'aspect de réconciliation qui se produit en Ukraine. Une Église orthodoxe qui représente 25 millions de fidèles. Je dirais que la nouvelle principale, c'est ça. Depuis 30 ans, je suis ce qui se passe en Ukraine. Et depuis 30 ans, c'était impossible de pouvoir réunir cette église qui était partagée en trois églises. Voilà. Et donc aujourd'hui, le fait que le patriarcat de Constantinople dise « mais ça n'est pas possible, c'est de ma responsabilité de veiller à ce qu'il y ait une réconciliation entre les chrétiens, c'est de ma responsabilité de recevoir les appels aussi des églises locales », pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, parce que on ne peut que se réjouir quand une réconciliation se produit, surtout quand ça devient l'église orthodoxe d'Ukraine, ça va devenir la deuxième église orthodoxe dans le monde, donc une église importante. Maintenant, le regret que j'ai, bien entendu, c'est que Moscou réagisse mal et que ça produise donc un début de schisme qui, malheureusement, va s'aggraver encore. Mmh. Alors, les autres églises, l'église de Roumanie ou l'église de Bulgarie, essayent de temporiser, essayent de trouver un moyen terme. Mais je vois pas comment elles peuvent s'opposer à ce mouvement historique de fond. Et alors donc à la fois c'est triste parce que ça divise beaucoup de monde, beaucoup de familles, c'est extrêmement déplorable et c'est un contre-témoignage.
Vous parlez d'un mouvement historique, il ne s'agit pas seulement d'histoire, je le disais, on parle aussi là de politique, de géopolitique. Bartholomée Ier de Constantinople, c'est le premier parmi ses égaux, le primus inter pares depuis 91, il dispose d'une sorte d'autorité sur toutes les autres églises orthodoxes. C'est lui qui a pris cette décision d'accorder donc le tomos, c'est comme ça qu'on appelle ça, à l'église orthodoxe ukrainienne. Elle permet donc au patriarcat de Kiev d'entamer une procédure pour devenir autonome et donc de s'émanciper de la tutelle russe, mais ce n'est pas une décision purement historique, purement théologique. Elle a évidemment des retentissements dans le champ politique et géopolitique. Il le sait bien.
Oui, mais disons que quand il y a eu l'annexion de la Crimée, Bartholomé s'est tu parce que sa priorité, c'était, alors qu'il a la responsabilité juridique sur les terres de Crimée, puisque l'église de Constantinople était missionnaire. Le baptême de la Rousse, ça vient de missionnaires byzantins. Donc il a toujours gardé cette responsabilité juridique sur les territoires canoniques ukrainiens. Maintenant, il n'a rien dit en 2014 parce que sa priorité, c'était la réconciliation du monde orthodoxe et d'organiser le concile panorthodoxe qui s'est tenu en 2016. Mais en 2016, Moscou a refusé de venir à ce concile panorthodoxe, craignant déjà que Constantinople puisse faire dans un second temps une reconnaissance de l'église orthodoxe ukrainienne. Et du coup, le patriarche de Constantinople dit, eh ben voilà, puisque moi, il y a mon leadership est contesté, eh bien, je vais de l'avant et je reconnais cette église. Alors, c'est vrai dans un contexte politique d'une guerre russo-ukrainienne qui a fait déjà plus de 11 000 morts, des centaines de milliers de blessés, plusieurs millions de déplacés. Et là, c'est clair que c'est une extension du conflit russo-ukrainien, comme on trouve pas des solutions pour calmer le conflit politique, eh bien, je dirais que apparaît la couche profonde qui était invisible, qui est la couche théologico-politique d'un conflit ecclésial qui est encore plus ancien, je dirais, que le conflit militaire, qui oppose l'Église de Russie, la troisième Rome, la fameuse troisième Rome, avec l'Église de Byzance, la deuxième Rome.
Antoine Arjakovski, vous parlez de leadership orthodoxe parce que effectivement, vous rappelez donc 2016, ce grand concile panorthodoxe organisé à Constantinople,
en Crète, par Constantinople,
auquel ne se rend pas le patriarche de Moscou, Kirill, mais en réalité, cette rivalité, cette concurrence entre le patriarcat de Constantinople et celui de Moscou, il est bien antérieur, il est bien plus ancien.
Il est très ancien.
Faut replacer les choses, cette rivalité est très importante pour comprendre aussi ce schisme, cette rivalité entre Constantinople d'un côté et Moscou de l'autre.
Voilà. L'Église orthodoxe, au sens confessionnel du terme, c'est-à-dire de cette église orientale qui a rompu avec Rome après le concile de Florence, c'est-à-dire à la fin du XVIe siècle. Le concile de Florence, c'est 1439, c'était un concile de réconciliation. Il y a eu cette idée que puisque on ne reconnaît plus Rome comme primus inter pares, puisqu'on ne s'entend plus sur certains sujets, eh bien, c'est Constantinople qui va assumer, qui est la deuxième Rome, qui va assumer le leadership. Une reconnaissance qui lui a été d'ailleurs attribuée par les conciles écuméniques, ce qui est embêtant aujourd'hui pour Moscou, mais c'est pourtant un fait historique. Donc, Constantinople ne veut pas assurer sa primauté, le fait qu'il soit primus inter pares, le premier parmi les égaux dans le monde des 14 églises orthodoxes, ne veut pas assurer son mode de gouvernement de la même façon que Rome, c'est-à-dire de façon assez verticale. En tout cas, c'est comme ça que les orthodoxes représentent la gouvernance romaine. Et néanmoins, il a été accordé par les conciles que Constantinople puisse, par exemple, organiser un concile panorthodoxe, appeler les églises à se réunir, ou bien avoir le droit d'appel, etc. Bon, ça a été contesté par Moscou assez tôt, dès finalement la fondation du patriarcat de Moscou au XVIe siècle. Il y a eu cette idée à Moscou que Constantinople, ils sont bien gentils, mais ils ont rien pu faire pour résister à l'Empire ottoman. Et donc, si la deuxième Rome a chuté en 1453, c'est nous, Moscou, qui sommes la troisième Rome, et il n'y en aura pas de quatrième.
Encore un peu d'histoire, et puis ensuite on viendra à l'époque contemporaine, parce qu'évidemment, tout ce qu'on est en train de faire, ce travail pédagogique et historique, il vise effectivement à éclairer les enjeux contemporains. Mais c'est important de faire de l'histoire, vous avez raison. 17e siècle, en 1686 précisément, il y a un texte qui est signé dans lequel le patriarche de Constantinople accepte que les fidèles de Kiev, donc, passent sous l'obédience, sous la tutelle de l'église de Moscou, avec, je crois, une sorte de flou sur la durée du transfert. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Je crois que ça fait l'objet de beaucoup de débats juridiques, mais... Pourquoi ce transfert d'autorité à ce moment-là?
Non, il n'y a pas de flou. Il y a une lettre très précise du patriarche.
C'est pas ce que disent les Russes.
Non, enfin, il y a des documents qui existent qui montrent que le patriarche Dionysios écrit à l'époque au patriarche de Moscou pour lui dire il y a une guerre entre l'Empire russe et l'Empire ottoman, je ne suis plus en mesure d'assurer la nomination des métropolites de Kiev, donc j'accepte que ce soit le métropolite de Moscou qui nomme après élection les métropolites de Kiev, à condition que, et c'est marqué noir sur blanc, que les métropolites de Kiev continuent à me nommer moi patriarche de Constantinople comme le premier parmi les égaux, en rappel, en souvenir que cette église de Kiev est le fruit de l'effort missionnaire byzantin. Et je dirais que l'église de Moscou a respecté ça assez longtemps. Et encore au début du XXe siècle, il y a la marque qu'à Moscou, on se souvient que ce territoire de la Russie, de cette Ukraine actuelle, appartient de jure au patriarcat de Constantinople, si ce n'est de facto compte tenu des évolutions politiques. Mais là, récemment, le patriarche de Constantinople et son synode, c'est-à-dire tous les évêques, et on a tendance à oublier que les évêques de Constantinople, c'est pas uniquement les quelques milliers de fidèles qui sont à Istanbul, il y a des métropolites qui sont partout dans le monde, y compris en France, y compris aux États-Unis. Bref, tous ces métropolites sont réunis au mois de septembre pour dire, eh bien, c'est légitime, puisqu'il y a un schisme dans l'Église d'Ukraine depuis 30 ans, puisque c'est la guerre, puisque c'est l'anarchie, c'est légitime de voir que, puisque le métropolite de Kiev a cessé de commémorer le patriarche de Constantinople pendant la liturgie, eh bien, de reprendre les affaires d'Ukraine, d'organiser un concile qui va se tenir, l'a-t-il dit hier, au mois de décembre de cette année 2018, pour permettre une réconciliation des orthodoxes en Ukraine, y compris avec les membres du patriarcat de Moscou en Ukraine.
Я дуже дякую за те, що ми з вами саме сьогодні, через буквально декілька годин після рішення Синоду Константинопольської Матері Церкви, можемо з вами це обговорити. Я вас дуже радий бачити.
Петро Олексійович, я, по-перше, поздравляю всіх нас.
Ce qu'on entend là, c'est d'une part la voix du président ukrainien Petro Poroshenko et puis celle là qu'on entend tout de suite du patriarche de Kiev, Filaret. Ils se sont rencontrés très récemment, c'était en octobre dernier. On peut trouver cette vidéo sur le site de la présidence ukrainienne. Qui a pris, Antoine Arjakovski, l'initiative de pousser vers cette reconnaissance de l'Église orthodoxe de Kiev par Constantinople et quel a été le rôle de Poroshenko? On s'intéresse, nous, toute cette semaine, à l'articulation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Est-ce que c'est Poroshenko qui a mis la pression, d'une certaine manière, pour effectivement accélérer les choses? Ou est-ce que c'est réellement une initiative qui s'est prise en interne, à l'intérieur du monde religieux et peut-être en particulier par Filaret lui-même? Il faudra d'ailleurs en dire un mot. Mais Antoine Arjakovski, d'abord.
Alors, c'est sûr que c'est Filaret qui, depuis 1991, dit puisque toutes les églises orthodoxes nationales sont autocéphales, il n'y a aucune raison, puisque l'Ukraine est devenue indépendante par rapport à l'Union soviétique, qu'elle ne possède pas sa propre église. Voilà, c'est comme ça. L'église locale, à défaut de l'église nationale, en tout cas, l'église locale, c'est comme ça, l'ecclésiologie orthodoxe, on doit reconnaître des églises locales.
Et donc, c'est la situation était comme telle depuis 91, elle aurait pu rester encore... Alors, longtemps, il y a quand même un moment où l'action politique...
Alors, ce qui s'est passé, effectivement... Non, mais depuis 91, Filaret écrit régulièrement au patriarche Bartholomé pour lui dire « Eh, on est là, reconnaissez-nous ». Et il y a même eu, en 2016, une nouvelle demande. Poroshenko a même fait voter la Rada, l'Assemblée nationale, au moment du concile pan-orthodoxe pour dire « Eh, on est là, on est 25 millions d'orthodoxes en Ukraine, regardez-nous, parce que pour l'instant, personne ne voit l'Ukraine ».
Et à l'époque, il s'est déplacé, il l'a même rencontré, Bartholomé.
Alors voilà, il y a eu plusieurs rencontres, mais même avant Poroshenko, il y a eu également Yushchenko qui voulait faire la même chose. Ce qui a accéléré effectivement les choses, c'est le fait que Poroshenko est lui-même orthodoxe. Et orthodoxe du patriarcat de Moscou. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et voilà quelqu'un qui...
Qui est la plus influente, la plus importante?
En nombre de paroisses. Il y a 12 000 paroisses du patriarcat de Moscou en Ukraine. Mais en nombre de fidèles, il y a plus de fidèles du patriarcat de Kiev. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Sur les 25 millions d'orthodoxes, on considère qu'il y a 15 millions qui font partie du patriarcat de Kiev. Donc cette église qui n'était reconnue par personne jusqu'à présent.
Qui a été créée en 93.
92, voilà. Il y en a à peu près 6 à 7 millions de fidèles qui se reconnaissent du patriarcat de Moscou. Et puis, il y a 1 million de fidèles d'une troisième église, l'église autocéphale, qui déjà, après la révolution de 1917, voulait être indépendante.
Et puis, il y en a encore une partie... Qui était née en 1920, pardon, éliminée par le régime communiste, et puis recréée ensuite au moment de la Seconde Guerre mondiale, je me trompe pas.
Absolument, voilà. Et qui ensuite est partie dans la diaspora aux États-Unis et là a été reconnue par Constantinople. Donc, quand on regarde ces chiffres, on se rend compte que c'est une église importante et qu'il fallait faire quelque chose. Et Porochenko, c'est vrai, a une volonté un peu plus importante, mais parce qu'il y a la guerre depuis 2014 et que lui considère que finalement le patriarcat de Moscou en Ukraine se conduit mal, contribue notamment à la guerre en faisant passer des armes dans la région de Donetsk. Il y a des livres qui
c'est
sont sortis là-dessus.
C'est justifié, ça, cette accusation?
En tout cas, il y a une chercheuse ukrainienne, Tatiana Derkach, qui a sorti un livre qui est assez affligeant de voir combien cette église orthodoxe dans le Donbass, il y a même une armée orthodoxe du Donbass.
Alimente le conflit.
Et puis, il y a même eu cette fameuse image à la Rada, où on voit tous les évêques de toutes les églises se lever pour avoir une minute de silence pour les morts, les soldats ukrainien au combat, et deux évêques ne se levant pas, le métropolite Onoufri et son adjoint, qui sont les leaders de cette église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et donc ça, c'est une image qui a terrifié les Ukrainiens. Il n'y avait pas d'union sacrée autour de ce combat. Or, je vous dis, il y a des morts tous les jours. Donc, voilà. Donc, le Porochenko a clairement construit sa campagne présidentielle pour 2019 en disant il y a un pays, une langue, une religion. Et cette religion, ça doit être l'église orthodoxe ukrainienne. Et donc, c'est vrai qu'il a fait pression sur Filaret. Il est allé voir aussi le patriarche Bartholomé. Le patriarche Bartholomé, qui lui-même est sous pression de Moscou, qui conteste son leadership, a dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, la seule façon de débloquer les choses, c'est de permettre enfin de répondre aux orthodoxes ukrainiens qui attendent ça, pas simplement depuis 30 ans, mais qui attendent ça depuis des siècles. Ça fait depuis 988 qu'il y a eu ce baptême de la Rousse de Kiev. Et régulièrement au Moyen-Âge, les Ukrainiens, enfin à l'époque on disait pas les Ukrainiens, mais les Roussines de Kiev disaient « mais nous on est là, on veut avoir des évêques qui soient pas des Grecs, mais qui soient des Slaves ».
Donc c'est un joli coup politique pour Porochenko, sachant qu'on a une présidentielle qui va se tenir l'année prochaine. C'est évidemment pour lui une vraie victoire politique. Sur Filaret, parce que Filaret, il faut expliquer quand même, rappeler qu'il a été excommunié par l'église orthodoxe de Moscou dans les années 90, que donc depuis, finalement, vu depuis Moscou, c'est un traître et un schismatique, sans compter qu'il a eu, rappelons-le aussi, peut-être des liens assez troubles avec le KGB pendant l'époque soviétique. C'est un homme qui a été un pur produit apparatchik du monde communisto-orthodoxe russe. C'est un homme qui, jadis, dénonçait le nationalisme ukrainien. Comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a opéré un tel virage politique pour devenir un si fervent défenseur de l'identité et de la nation ukrainienne?
Alors,
je me trompe pas quand je fais à peu près ce portrait.
C'est plus compliqué. Il faut faire des nuances dans la.
Alors vous allez les faire.
Voilà. La première nuance, c'est la nuance entre nationalisme et patriotisme. On sait que récemment, le président Macron, le 11 novembre, a dit le nationalisme c'est mal, le patriotisme c'est bien. Et c'est un peu ça la politique du patriarche Filaret, hein, qui du reste n'est plus reconnu comme patriarche mais simplement comme métropolite, et qui va se représenter pour le prochain concile qui va avoir lieu le mois de décembre et qui va probablement être réélu, mais non plus comme patriarche, mais comme métropolite. Donc, premièrement, c'est quelqu'un qui défend l'identité nationale ukrainienne sans être un ultra.
Ça n'a pas toujours été le cas, Antonin Jakobski.
Dans le passé, il a été effectivement un évêque au moment de l'Union soviétique qui représentait le patriarcat de Moscou en Ukraine et dont on connaît effectivement les liens avec le régime. Et le régime ne favorisait pas l'émergence de l'identité nationale ukrainienne. Et donc, ça n'a pas été, par exemple, un grand ami des gréco-catholiques ukrainiens.
Paraît-il.
Ça, c'est vrai.
Paraît-il.
Et de même que c'est vrai qu'il y a eu une collaboration avec les services secrets. C'est avéré. Mais je dirais que non pas pour le justifier.
Bon, donc il y a quand même un virage à 180 degrés.
Non. L'ensemble des évêques, y compris le patriarche Kirill de Moscou, non seulement a collaboré, mais collabore toujours avec les services secrets. Donc ce que je veux dire, c'est que dans cet ensemble, il faut voir pas un individu, mais un système. Mmh. Et le grand malheur, c'est que ce système, cette église orthodoxe slave, dans les années 90, au moment où elle aurait pu le faire, n'a pas demandé pardon, ne s'est pas repenti pour la collaboration avec les services secrets, dont on sait, et je tiens à le rappeler parce que ça va avoir lieu dimanche, il va y avoir la commémoration du Golodomor, la grande famine de 1932 en Ukraine, qui a abouti à plus de 5 millions de morts. Mmh. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Et l'église n'a pas condamné ça. Donc là, c'est vrai qu'il y a un travail qui est devant l'église orthodoxe ukrainienne, qui n'a pas été réalisé, mais qui est devant aussi l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, de repentir par rapport au passé. Mais je dirais que dans ce magma qui est pas très reluisant, il y a quand même quelques figures qui sont sorties assez dignes. Et le patriarche Filaret, sa dignité, c'est que pendant 30 ans, il a cru, alors qu'il était reconnu par personne, que l'Ukraine méritait d'avoir son église et que les Ukrainiens surtout méritaient de pouvoir prier dans leur langue. Parce que c'est ça tout le problème. Le patriarcat de Moscou en Ukraine n'accepte pas que les fidèles puissent prier dans leur langue. Il ne leur demande que de prier dans un vieux slavon que personne ne comprend. Donc là, je dirais que c'est cette dignité-là qui lui est reconnue aujourd'hui par le patriarche Bartholomée.
Vous parlez de cette question de la langue. C'est vrai qu'il faudrait peut-être regarder un petit peu ce que sont ces fractures à l'intérieur de l'orthodoxie ukrainienne. Vous l'avez dit, il y a donc trois églises orthodoxes. L'église orthodoxe ukrainienne, donc qui relève du patriarcat de Moscou. Il y a l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Et puis l'église orthodoxe autocéphale ukrainienne dont on parlait, qui est une beaucoup plus petite église. Mais finalement, la fracture en Ukraine entre ces églises, à quelle logique elle répond ? Est-ce que ce sont des fractures linguistiques, comme vous le dites, géographiques, sociales ? Comment comprendre les choses ?
Fondamentalement, c'est une fracture entre une église qui cherche à se prendre en main pour s'organiser elle-même sans dépendre de centres extérieurs, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième Rome, parce que on n'a pas compté les gréco-catholiques, mais les gréco-catholiques, les catholiques de rite byzantin, ils se définissent comme orthodoxes. Et ils sont 5 millions de fidèles en Ukraine. Et eux, ils relèvent de Rome. Donc en fait, l'Ukraine est un territoire qui est partagé entre trois centres extérieurs, Rome, Moscou et Constantinople. Et il y a un moment où les Ukrainiens disent, bon ben nous on voudrait avoir notre propre chef. On voudrait s'organiser nous-mêmes. On pense pas forcément tout comme Moscou, comme Rome ou comme Constantinople. Donc il y a d'un côté cela. Et d'un autre côté, ceux qui disent, à la limite, qu'on prenne nos décisions nous-mêmes, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on soit reconnu, qu'on soit canonique, qu'on soit dans les clous. C'est ça la ligne de fracture principale qui divise les chrétiens en Ukraine. Et pendant longtemps, bah, il y avait les deux. Et puis aujourd'hui, compte tenu de ce conflit qui accélère les choses, mais compte tenu aussi, alors c'est un point que j'aimerais aborder parce que qui fait vraiment partie du problème, d'une sorte de crise interne de l'Église orthodoxe dans son ensemble, eh bien, ce modus vivendi entre ceux qui veulent être dans les clous internationaux d'une Église reconnue et ceux qui veulent défendre la possibilité de créer une Église locale, ce modus vivendi n'est plus possible parce que, bon, d'une part il y a la guerre, d'autre part il y a cette crise de l'orthodoxie. Les uns et les autres comprennent que c'est pas possible que l'Église soit à ce point dépendante de l'État. Le modèle dans l'Église orthodoxe dans son ensemble, depuis Eusèbe de Césarée, depuis le 4e siècle après Jésus-Christ, ça a été de dire, comme Eusèbe l'a dit en 336 dans un discours, les louanges de Constantin, un discours célèbre, disant de l'empereur, vous l'empereur, vous êtes comme Dieu le Père sur la terre. Dieu le Père est le monarque au ciel, et vous l'empereur, vous êtes le monarque sur la terre. Vous êtes le Logos, vous êtes l'unique représentant de Dieu sur la terre. Alors ça, c'est quand même, ça, c'est tout sauf chrétien, c'est tout sauf orthodoxe, et pourtant Eusèbe de Césarée, jusqu'à aujourd'hui, est reconnu comme un des grands pères, alors peut-être pas un père de l'Église, mais en tout cas une des autorités dans le monde orthodoxe. Il y a eu des tentatives pour nuancer ça. Il y a eu la tentative de Fossius au 9e siècle, qui n'était pas non plus une réussite, parce que Fossius a dit, bon ben, on peut pas, ce serait trop exagéré que de donner autant de pouvoir à l'empereur, on va partager. L'empereur s'occupe des corps, le patriarche s'occupe des âmes. ce qui n'est pas chrétien non plus, parce que le christianisme ne sépare pas le corps de l'âme. Donc il y a eu cette fausse théologie politique, mais c'est important, parce que Eric Peterson...
C'est très important, vous avez raison, mais en gros, si je vous comprends, Antoine Arjakovsky, aujourd'hui, ce que disent les orthodoxes ukrainiens, quelle que soit l'église à laquelle ils seraient affiliés, c'est il faut prendre de la distance vis-à-vis de l'État, prendre de l'autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. Mais vous avez aussi des orthodoxes qui sont attachés à leur lien avec Moscou notamment. Il y a aussi des paroissiens qui vont vous dire, nous on veut que notre paroisse, notre église reste affiliée à Moscou.
Oui.
Ça existe.
Bien sûr. Et au sein de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, qui jusqu'à présent s'appelait...
Éminemment lié évidemment au pouvoir politique au régime russe,
oui.
Bien sûr.
Cette église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, elle est divisée en deux. Il y a ceux qui vont rejoindre cette église réconciliée, notamment on pense qu'un certain évêque comme le métropolite Drabinko va venir au concile de réunification au mois de décembre. Et puis il y a ceux qui disent, mais nous, il n'y a aucune raison qu'on change, et donc on veut rester fidèles. Et donc il va y avoir des partages entre les paroisses. Il y a certaines paroisses qui vont dire, réunissons le mouvement d'ensemble, et moi je considère que ça va être la majorité des paroisses du patriarcat de Moscou qui vont réunir cette église réconciliée. Puis il y en a d'autres qui vont dire, mais non, nous, l'important c'est qu'on soit en lien avec Moscou, et là, il peut y avoir des tensions très importantes dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Des tensions jusqu'où, justement, parce que tout ça va pas se faire dans la paix la plus absolue. Il y a déjà eu, vous avez noté ça, vous regardez évidemment l'actualité de très près, cette actualité, le 15 novembre dernier, des cocktails Molotov ont été lancés contre une église de Kiev. On voit bien que là, ces tensions, elles pourraient éclater vers quelque chose de plus grave. Oui. Est-ce qu'il faut le craindre ?
Oui, il faut le craindre. Et du reste, c'était pas n'importe quelle église, c'était l'église Saint-André de Kiev, dont le président de Poroshenko venait de l'attribuer au patriarche de Constantinople. C'est-à-dire, c'est un point très important. Le patriarche de Constantinople a maintenant une sorte de concordat depuis 10 jours avec l'église, avec l'État ukrainien, et l'État ukrainien, en contrepartie, lui donne cette église. Et qu'il y ait une bombe qu'on ait voulu poser une bombe à cette église, ça montre qu'il y a des gens qui s'opposent à ce concordat. Et il va y avoir des provocations. Moi, je crois pas que les Ukrainiens...
Est-ce que ce sont des fidèles ukrainiens ou est-ce que... Ça pourrait être autre chose. Je vais vous être très clair avec vous. Le porte-parole de l'Église orthodoxe de Kiev, lui, il pointe directement la responsabilité de Moscou. Voilà ce qu'il disait dans les colonnes de la Croix il y a quelques jours. Nous voyons que les sbires de Moscou envoient des signaux pour intimider les représentants du patriarche œcuménique. Voilà, eux, ils disent, c'est Moscou,
Le
Kremlin.
Mais c'est très clair. Moi, je suis la presse tous les jours, et il y a clairement, les services secrets ukrainiens montrent que des centaines et des centaines de Russes sont envoyés, notamment à Potchaïev et à Kiev, parce que les deux lieux symboliques de la présence de Moscou dans cette église orthodoxe en Ukraine, c'est les deux monastères de Potchaïev et de la Laure Saint-Antoine des Grottes à Kiev. Et donc, on craint que, à Moscou, ces deux laures ne rejoignent l'église orthodoxe ukrainienne réunifiée, et donc on envoie des provocateurs pour semer le désordre et dire « Regardez comme nous sommes persécutés en Ukraine », ça doit justifier une intervention non seulement politique et ecclésiale, mais aussi militaire en Ukraine. C'est exactement sur ce même type d'argument, à l'époque c'était la langue, que Poutine a légitimé son intervention et en Crimée et dans le Donbass. Donc c'est pour ça que les Ukrainiens, et notamment du patriarcat de Kiev, ont dit... Nous ne légitimons aucune violence, nous ne sommes derrière aucune violence, et nous demandons aux services secrets ukrainiens de protéger les paroisses, les églises dans les prochains mois, parce qu'il risque d'y avoir des provocations.
Fin octobre, Poutine s'exprime sur cette reconnaissance de l'église ukrainienne par le patriarcat de Constantinople, et il dit la chose suivante, il dit « Politiser un domaine si sensible aboutit toujours aux conséquences les plus graves, avant tout pour ceux qui le font ». On est dans la menace, là.
On est dans la menace, mais surtout, on est dans l'hypocrisie absolue, parce que s'il y en a un qui manipule bien l'Église, c'est le président Poutine. On le voit sans arrêt avec le patriarche Kirill. On voit le patriarche Kirill passer son temps à dérouler le tapis rouge devant le Kremlin. On y a même eu un film qui a été présenté il y a pas très longtemps sur Arte, où on voit le patriarche Kirill réunir tous les chefs d'Église pour un rendez-vous avec le président Poutine. Donc, voilà, il y a une manipulation évidente. de l'Église russe par le pouvoir russe. Et malheureusement, l'Église russe n'a plus la capacité de prendre ses distances. Il y a eu une tentative en 2012 de la part du patriarche, et immédiatement, le soir à la télévision, des représentants des services secrets rappelaient combien Kirill avait collaboré avec les services secrets. Donc ils sont points et points et pieds liés.
Et d'ailleurs, vous évoquiez cette question de la Crimée qui a probablement aussi provoqué les choses, le fait qu'effectivement le patriarche de Moscou ne s'est pas rendu à cette grande conférence de 2016. Mais au fond, en toile de fond, il y a ça, il y a ce rapprochement entre Poutine et Kirill. Au fond, la décision de demander d'accélérer l'autonomie de l'Église de Kiev, elle est peut-être aussi le résultat précisément, d'abord et avant tout, au fond, de ce rapprochement entre le pouvoir politique russe et l'orthodoxie russe.
Absolument. Poutine avait besoin, c'était la grande question qu'avait déjà posée Yeltsin à la fin des années 90, on a besoin d'une idéologie nationale pour fonder la nation russe. La nation russe, et Solzhenitsyn avait raison là-dessus, on célèbre Solzhenitsyn cette semaine, la Russie a besoin d'avoir son idée propre. Et donc Yeltsin a cherché, et finalement c'est Poutine qui l'a trouvé chez Kirill, Kirill disant il y a cette idéologie du monde russe. Partout il y a des Russes, partout on parle le russe, il y a une identité russe, et cette identité russe, il faut la protéger. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a eu une sorte de fusion entre l'État et l'Église autour de cette idéologie du néo-impérialisme russe.
On est avec vous ce matin, Antoine Arjakovski, dans cette semaine consacrée à la politique et la religion, les liaisons dangereuses de Kiev à Moscou, divorce à l'orthodoxe, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va revenir à l'époque de l'effondrement de l'URSS qui a provoqué des crises économiques, sociales et politiques dans tous les pays situés dans son giron. Ce fut notamment le cas pour la Géorgie. 2004, la Géorgie vit une révolution populaire, la Révolution des Roses. Le président Édouard Chevardnadze, en place depuis 92, démissionne pour laisser place à son opposant, Mikhail Saakashvili, qui portait l'ambition de véritablement sortir le pays de l'héritage soviétique et de le projeter dans la croissance et la modernité.
Je dédie mon mandat de président à tous ceux qui souffrent en Géorgie. Je le dédie aux générations futures de Géorgie, à leurs rêves et à l'accomplissement de ces rêves.
Voilà, extrait de son investiture en 2004. Saakashvili est resté en place pendant presque 10 ans, notamment au moment du conflit armé avec la Russie en 2008, les guerres d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, avec ses mouvements séparatistes soutenus par Moscou, on s'en souvient. Et puis 2013, il est remplacé par le candidat de l'opposition, Gheorghe Margvelashvili, qui est toujours en place aujourd'hui. Sylvia Serrano, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et puis auteur de cet ouvrage très récent, Orthodoxie et politique en Géorgie post-soviétique. Alors j'ai fait un petit rappel un peu de l'histoire et de la politique à post-soviétique concernant la religion. L'Église orthodoxe de Géorgie est une juridiction autocéphale de l'Église orthodoxe, l'une des plus anciennes du monde d'ailleurs. Elle remonte au 5e siècle. Oui. Elle a été abolie, je crois, au 18e, après l'annexion de la Géorgie par le pouvoir tsariste, et donc restaurée de facto à la fin de l'Empire russe en 1917, mais reconnu par l'Église russe seulement en 1943 et par le patriarcat de Constantinople bien plus récemment, je crois que c'est en 1990. Si on regarde ce qui s'est passé, Sylvia Serrano, au moment de l'effondrement de l'URSS pour la Géorgie, comment le religieux est alors utilisé pour affirmer l'émancipation de Tbilissi par rapport à Moscou? Dans quelle mesure est-ce que cette Église orthodoxe géorgienne devient un acteur, un vecteur du nationalisme géorgien, Sylvia Serrano?
Alors, l'Église géorgienne a toujours été, enfin depuis la naissance des nationalismes modernes, un vecteur du discours nationaliste géorgien. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement, l'autocéphalie a été supprimée au moment de l'intégration des territoires géorgiens à la Russie au XIXe siècle. Et à partir de cette date, le rétablissement de l'autocéphalie et la lutte donc pour l'indépendance conjointe, enfin en tout cas pour l'autonomie culturelle de la Géorgie et la reconstitution de l'institution ecclésiastique sont une des causes nationalistes, et ce depuis le XIXe siècle. Alors effectivement, les choses se sont rejouées au moment de l'accession à l'indépendance avec un jeu de complémentarité entre le politique et le religieux. Le religieux, l'orthodoxie et l'Église, cette Église, comme vous l'avez également rappelé, multiséculaire, a constitué ce que le théoricien du nationalisme, Anthony Smith, appelle une ressource culturelle profonde, qui permettait de légitimer l'accession, la volonté de la nation géorgienne à avoir son État indépendant.
Donc, mais comment s'illustre justement, comment s'illustre ce jeu, cette mobilisation du religieux dans le mouvement nationaliste géorgien?
Alors,
très concrètement.
Très concrètement, on a, alors, en réalité, dès le départ, c'est-à-dire dès la naissance du mouvement national, la renaissance du mouvement nationaliste dans les années 1970, il y a une mobilisation très forte de l'orthodoxie, mais paradoxalement, des relations exécrables entre les dissidents géorgiens, et notamment celui qui deviendra le premier président de la Géorgie post-soviétique, Ziad Kamsakhourdia, et la figure du catholicos patriarche. Donc il y a une concurrence qui est également une concurrence de personnes, mais qui est aussi qui provient aussi des accusations proférées au sein de la dissidence contre une église soupçonnée de collaborer avec le KGB. Et puis paradoxalement, au moment où l'État devient indépendant, cette suspicion, ces doutes s'estompent, et peu à peu, c'est vraiment la grandeur retrouvée de l'orthodoxie qui est portée sur le devant de la scène, avec du coup les différents présidents, que ce soit le premier que je viens de mentionner, et puis les autres, Chevernadze, Saakashvili, et jusqu'à une période plus récente, en fait, vont faire des grandes fêtes religieuses orthodoxes, les fêtes nationales, vont associer les hiérarques aux grandes cérémonies étatiques, donc vont essayer d'intégrer l'orthodoxie à la symbolique d'État. Ça, c'est du point de vue, si vous voulez, des politiques.
Et en même temps, Sylvia Serrano, une fois l'indépendance géorgienne acquise et bien affirmée, l'Église va interférer dans les affaires politiques internes. Ce n'est pas seulement une force unificatrice de la nation géorgienne, elle est aussi un facteur de division politique, ethnique, religieux.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, en tout cas, elle le devient.
Selon les derniers recensements, on a plus de 80% de la population géorgienne qui se dit nominalement orthodoxe, mais en réalité, il y a néanmoins des minorités importantes qui ne le sont pas, notamment des minorités ethniques. Et parmi ceux qui se disent géorgiens, il y a des géorgiens musulmans. Donc effectivement, un des premiers problèmes de cette église orthodoxe, si elle se veut l'incarnation de la nation, c'est qu'elle exclut des frontières de cette communauté nationale une part non négligeable de la population. Et puis une autre évolution qu'on a vue à l'œuvre plus récemment, et notamment qui s'est accentuée sous les mandats de Saakashvili, c'est que l'Église, peu à peu, et là les dynamiques géorgiennes recouvrent des dynamiques internationales et des dynamiques que l'on trouve dans d'autres pays, est devenue l'incarnation d'une espèce de résistance culturelle à une mondialisation sur le modèle occidental, à une mondialisation néolibérale qui n'a pas tenu ses promesses pour les populations et notamment pour les franges les plus fragilisées des populations.
Et donc c'est rapproché de la position russe. Vous écrivez dans votre livre, je vous cite, qu'il y a une forme de rapprochement politique et idéologique entre l'Église orthodoxe géorgienne et certains courants proches du pouvoir à Moscou. Donc il y a un vrai rapprochement.
Il y a un rapprochement, mais il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'en même temps, l'Église géorgienne a toujours, en réalité, été proche du patriarcat de Moscou. Une grande partie des hiérarques géorgiens a été formée en Russie. Mais néanmoins, il y a des points de discorde forts. Et vous avez rappelé la guerre de 2008. Au moment de la guerre de 2008, toutes les parties en conflit étaient majoritairement orthodoxes et toutes ont tenté de mobiliser l'orthodoxie dans l'effort de guerre, dans l'effort symbolique de guerre.
Poursuivez.
Une des pommes de discorde importantes, ce sont les paroisses d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, c'est-à-dire les contours du territoire canonique de l'église de Géorgie.
Vous restez avec nous, j'aurai encore une question à vous poser, mais je voudrais faire intervenir notre invité ici en plateau, Antoine Arjakovsky, de façon générale. Et puis, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait interroger, Antoine Arjakovsky, c'est que quand on regarde un peu les choses et des cartes, on voit qu'il y a certaines églises qui se sont émancipées, en Estonie, en République tchèque, en Géorgie, elle n'avait pas besoin, elle l'était déjà, mais alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas totalement rompu leurs liens, je pense par exemple à la Biélorussie, et donc là on peut se demander si au fond on peut faire un lien entre le niveau d'émancipation, d'autonomisation des églises orthodoxes vis-à-vis de Moscou, et de façon plus générale, les liens politiques, diplomatiques entretenus avec Moscou. Est-ce que finalement on peut mesurer différents niveaux de désoviétisation en regardant ces églises orthodoxes.
Bien sûr, ça va ensemble. Plus on se désoviétise, plus on prend ses distances avec la Russie, et plus les églises parviennent à leur autonomie. Et donc, c'est la raison pour laquelle le synode de l'église russe s'est réuni récemment à Minsk, pour bien dire, on forme un seul tout avec la Biélorussie, il est hors de question que ce qui arrive aujourd'hui à l'Ukraine arrive un jour à la Biélorussie. Or, on sait qu'il y a déjà des prêtres orthodoxes en Biélorussie qui disent « mais c'est pas normal que la Biélorussie ne soit pas représentée dans les grandes instances internationales. La Biélorussie est une nation, et pourquoi à chaque fois on passe sous la coupe du patriarcat de Moscou ?»
Toute dernière question, Sylvia Serrano, et puis ensuite on va passer à la Grèce. Dans votre livre, vous concluez sur une manifestation qui s'est tenue le 21 décembre 2012 à Gori, ville natale de Staline. Un petit groupe de croyants vient manifester, prier, cierge à la main pour le petit père des peuples. Vous dites que cet événement est symptomatique de ce qui se réalise au nom de l'orthodoxie. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en Géorgie, en tout cas, peut-être ailleurs d'ailleurs, l'orthodoxie va progressivement glisser vers une forme de populisme, je le dis à dessein parce que c'est un terme que vous utilisez justement dans votre conclusion, et que finalement elle constitue un véritable défi pour ceux qui veulent défendre les valeurs, les principes de la démocratie en Géorgie. Finalement, orthodoxie et démocratie sont devenus antinomiques alors qu'ils n'ont peut-être pas toujours été. Sylvia Serrano.
Non, je pense pas qu'il soit antinomique, et le petit groupe sur lequel je termine mon ouvrage, effectivement, c'est un groupe qui est très minoritaire. Simplement, effectivement, il y a différentes revendications et différents discours qui peuvent être émis au nom de l'orthodoxie et que ne maîtrise pas nécessairement d'ailleurs l'Église. Et puis quant à Staline, il y a quand même une spécificité forte géorgienne, puisque d'abord Staline était géorgien, mais aussi parce que c'est sous Staline que pour la première fois depuis le 19e siècle, que le patriarcat de Moscou a reconnu l'autocéphalie de l'Église géorgienne. Donc de fait, la figure de Staline, y compris au sein de l'Église, elle est beaucoup plus ambiguë que dans d'autres États post-soviétiques.
Antonin Jakovski, je vous ai vu écrire un certain nombre de choses sur votre papier.
Oui, non, mais
rapidement, parce qu'après on va passer à la Grèce. Mais je veux vous entendre.
C'est sur le rapport orthodoxie-démocratie.
Oui. Je me doutais.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Le patriarche Kirill, à plusieurs reprises, a critiqué l'idéologie des droits de l'homme, a critiqué la séparation des pouvoirs, en disant la séparation des pouvoirs, c'est une perte de temps. L'idéologie des droits de l'homme, c'est une sorte de sécularisation qui exclut Dieu de la cité, etc. Donc, ça veut dire il y a un refus du modèle communiste, mais il y a un refus aussi de la démocratie moderne occidentale. Et donc ça pose un vrai problème.
Merci beaucoup Sylvia Serrano. Je rappellerai donc votre ouvrage paru chez Kartala le mois dernier, Orthodoxie et politique en Géorgie post-soviétique. Merci infiniment. On va passer à la Grèce parce qu'on va voir que là, parfois, c'est le politique qui cherche à évacuer le religieux des affaires publiques. C'est le cas en Grèce. Le 6 novembre dernier, un accord qualifié de historique a été signé entre le chef du gouvernement Alexis Tsipras et l'archevêque d'Athènes, le chef de l'église de Grèce. Un accord qui va dans le sens d'une plus grande séparation entre l'église et l'État, qui était une promesse de campagne d'Alexis Tsipras. On va retrouver Isabelle Després depuis Athènes par téléphone. Bonjour Isabelle Després.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, enseignante à l'université de Marmara à Istanbul et puis chercheur associé au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité à l'université libre de Bruxelles. Alors en Grèce, l'église a une place toute particulière. On le sait puisque les ecclésiastiques sont considérés comme des fonctionnaires et sont payés par l'État. D'ailleurs, depuis 2012, le secrétariat général des affaires religieuses a même rendu public leur traitement pour couper court en protestation suite à l'annonce qu'ils ne seraient pas impactés malgré la baisse générale des fonctionnaires grecs. C'est comme ça qu'on sait par exemple qu'un prêtre en début de carrière touche un peu plus de 1000 euros et que l'archevêque d'Athènes dont je parlais touche lui presque 3000 euros avant impôt. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans cet accord que je viens d'évoquer du 6 novembre dernier et quelles conséquences il pourrait avoir concrètement pour les prêtres?
Oui, c'est ça. Alors, donc en fait, je veux juste revenir, j'ai été très intéressée par l'émission parce qu'on retrouve en Grèce aussi historiquement ces questions du lien très fort entre l'Église nationale et l'État et l'utilisation de l'orthodoxie dans le cadre d'un discours nationaliste. Donc ça, c'est vrai que je n'ai pas commun avec ce qui a été dit au début de l'émission. Alors, dans cet accord, en fait, qui est considéré, donc c'est un pré-accord, en fait, pour l'instant, il n'a pas encore été avalisé, qui a été négocié au sommet entre le Premier ministre et l'archevêque d'Athènes. En fait, il y a deux volets. En fait, le premier, spoiler, en fait, c'est que ça concerne le financement des prêtres de l'Église orthodoxe de Grèce, environ 9200 fonctionnaires, à peu près 10 000 fonctionnaires de l'État depuis 1945, et qui, si l'accord est bien avalisé, désormais ne serait plus financé par le budget de l'État, en fait. Mais l'État s'engage, c'est ça la feinte, à verser une subvention à l'Église orthodoxe de Grèce d'un montant à peu près égal, c'est-à-dire environ 200 millions
d'euros. Oui, donc si je résume, les membres du clergé perdront leur statut de fonctionnaire, mais l'État continue à leur verser les 200 millions d'euros chaque année pour leur rémunération. Mais cet accord, il nécessite bien sûr d'être entériné par l'Église orthodoxe grecque. Il y a une assemblée générale qui va d'ailleurs bientôt être convoquée, je crois que c'est en fin de semaine. Est-ce que cet accord sera accepté par la communauté ecclésiale selon vous?
Oui, alors il y a énormément de conflits. Alors je reviens juste parce qu'il y avait un deuxième volet de cet accord. Et effectivement, c'est la question du financement des prêtres qui c'est là que ça va que les résistances vont être les plus fortes. Mais le deuxième volet de l'accord, c'est un accord économique sur la volonté commune entre État et Église de valoriser de manière commerciale une partie des terres ecclésiastiques qui sont depuis dans les années 40, qui sont gelées, qui sont contestées par l'État et qui, si l'accord est signé, seraient désormais exploitées, donc débloquées par l'État qui les conteste et qui pourraient être valorisées avec des bénéfices 50% entre Église et État et qui pourraient susciter en fait pour l'Église des ressources supplémentaires à long terme, régulières, avec l'idée petit à petit de renforcer l'autonomie économique de l'Église pour un désengagement de l'État.
Ça serait un coup de maître politiquement, parce que depuis des années, ce que nous dit l'Église orthodoxe grecque, c'est que il ne faut pas toucher au patrimoine, et on le sait absolument colossal. On sait aussi évidemment les exemptions fiscales auxquelles elle a le droit. L'objectif pour l'Église orthodoxe grecque depuis des années, c'est de protéger ce patrimoine. Là, non seulement il serait protégé, mais en plus, il serait valorisé grâce à cet accord. C'est un coup de maître politiquement pour Alexis Tsipras, qui lui aussi, l'année prochaine, va devoir faire face à des élections très importantes politiquement. C'est un coup de maître, Isabelle Després.
Absolument. Moi, en fait, c'est un accord qui est en fait le résultat d'une négociation de 3 ans, en fait, entre le Premier ministre Tsipras et l'archevêque d'Athènes. Apparemment, il y a une sorte de coopération qui est un peu dans une tradition, mais une coopération particulière entre cet archevêque qui est plutôt considéré comme libéral et progressiste, qui n'est pas du tout dans une logique de confrontation. Et effectivement, dans l'échéance, hein, puisqu'on est entré dans une période préélectorale, puisque en septembre prochain, il y a de nouvelles élections législatives. Et effectivement, c'est considéré comme un accord, un préalable très important et un coup de maître, quelque chose de très habile de la part d'Alexis Tsipras, qui dans une période où il est contesté par l'opposition conservatrice et par l'électorat de gauche pour des raisons économiques, en fait, il va recentrer le débat en faisant presque quelque chose, une évolution très importante au niveau institutionnel sur un thème qui est un thème important de l'électorat de gauche en Grèce, à la fois dans la gauche radicale, mais beaucoup plus à la fois dans la gauche plus modérée, d'autres partis de gauche. Donc effectivement, s'il arrive, ça va être une course contre la montre maintenant, puisqu'il va y avoir également à partir de 2019 une réforme de la Constitution. Et Alexis Tsipras s'est plus ou moins entendu, il souhaiterait que l'article
Alors, on vous entend plus, Isabelle Després, mais on a compris le propos général et l'analyse générale. Antoine Arjakovsky, peut-être que je vais vous faire réagir, mais ce qui est intéressant aussi là de noter, je parlais de coup de maître politique pour Tsipras, on pourrait regarder du côté de l'Église orthodoxe. Là, c'est peut-être beaucoup moins reluisant, parce que ces dernières années, on l'a vu du côté de la Grèce, il y a un certain nombre de lois qui ont été très défavorables à l'Église. Il y a eu l'introduction d'abord du mariage civil dans les années 80, qui avait provoqué une véritable fronde chez les popes qui avaient même menacé de ne plus marier les personnes qui avaient été unies en civil, qui avaient même dit qu'ils ne feraient plus leur enterrement religieux. Et puis il y a 20 ans plus tard, une nouvelle contestation de l'Église lorsqu'on fait retirer la mention de la religion sur la carte d'identité. Et oui, la religion, ce n'est plus aussi fondamental pour l'identité nationale grecque. Donc c'est aussi un recul, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un recul progressif de l'Église orthodoxe en Grèce.
Oui, c'est petit à petit la prise de conscience que la réalité n'est plus la réalité byzantine et qu'il faut rentrer dans la modernité. Ouais. Et rentrer dans la modernité, c'est en premier lieu reconnaître la liberté de conscience en chacun. L'Église catholique a reconnu ça lors du Concile Vatican II, et c'est assez récent finalement, entre 1962 et 1965. Mais l'Église orthodoxe n'a pas eu son Concile Vatican II. Il n'y a pas eu de décision disant, oui, le modèle théologico-politique de cette union entre l'empereur et le patriarche ne fonctionne pas, n'est pas bon. Il faut penser autrement les relations entre l'Église et l'État. L'Église, c'est l'anticipation du royaume. Le père Serge Bulgakov disait, c'est le buisson ardent. C'est un niveau de conscience qui doit orienter l'État. Et c'est pas un partage politique, ouais, corps et âme avec l'État. Et donc c'est ça que réalise aujourd'hui le monde orthodoxe. Déjà, ça avait été le cas en 1917, ce sont des civils qui ont imposé la séparation entre l'Église et l'État. C'est pas l'Église qui est à l'origine de la séparation entre l'Église et l'État dans le monde russe. Ben là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui se dit agnostique, Tsipras, qui impose cette séparation réelle, y compris budgétaire, entre l'Église et l'État.
Et c'est un vrai bouleversement pour la Grèce, pour la nation grecque, parce qu'il faut bien avoir en tête que cette proximité entre l'Église et l'État en Grèce, elle a évidemment des origines. Quand on regarde la domination ottomane, l'Église orthodoxe grecque était la seule qui était reconnue par les autorités ottomanes. Et donc, de facto, l'Église a été la seule institution qui a assuré une certaine continuité de l'État grec, et d'où sa légitimité, d'où sa force, d'où sa proximité avec l'État. Et tout ça est en train de changer. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle Després. Je rappellerai votre ouvrage « Religion, nation, citoyenneté en Grèce ». L'Église orthodoxe et le conflit des cartes d'identité, c'était chez l'Harmattan.
Черы в золоте тесном, в комнате тесном, в городе мир, большая тюрьма, кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на проводе тьма, тишина.
Un grand merci à vous, Antoine Arjakovsky. Vous avez le sourire parce que ce qu'on entend, un monde abandonné par Dieu, c'est comme ça qu'on traduit. C'est un groupe que vous connaissez?
Oui, c'est OK Anelza.
Absolument. Que vous citez dans un de vos livres. D'ailleurs, je vais rappeler, moi, vos livres. Occident-Russie, comment sortir du conflit. Chronique 2014-2016, c'était chez Ballan. Et puis également, Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou. Anatomie de l'âme russe aux éditions Salvator. C'était au début de l'année. Et puis peut-être un tout petit mot sur un colloque qui va se tenir très bientôt. Antoine Arjakovsky, sur Nicolas Berdiaïev.
Oui, c'est un colloque très important qui a lieu à Clamart ce week-end, le samedi et ce dimanche. C'est la première fois depuis 1976 qu'il y a un colloque sur Nicolas Berdiaïev, grand philosophe russe du XXe siècle, et on fête, on commémore plutôt le 70e anniversaire de son décès en 1948 à Clamart. Il va y avoir les meilleurs spécialistes qui vont venir de Berdiaïev, dont Bertrand Vergely par exemple, et moi-même j'y serai aussi. Ça va être très intéressant, j'encourage tout le monde à venir à Clamart. Donc samedi et dimanche, il y a un site où on peut se rendre pour s'inscrire.
Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre évidemment le lien de ce site sur la page de Culture Monde, comme ça les auditeurs de Culture Monde, de France Culture, pourront s'y retrouver.
Не надо, время вспять не течет. Ровно полночь.
Allez, 11h53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez d'Europe de la défense. Depuis hier, Emmanuel Macron a relancé cette idée d'une défense européenne commune. Et cette fois, les Allemands paraissent intéressés.
Oui, en prônant une défense européenne complètement autonome des États-Unis, Emmanuel Macron adopterait, selon The Economist, une posture gaulliste. Mais l'hebdomadaire britannique de l'élite mondiale juge l'idée avec sévérité. Son propos, écrit le journaliste, est vague, confus, chimérique et imprudent à une époque de grande incertitude pesant sur le lien transatlantique. Et de rappeler que le projet de CED, la Communauté européenne de défense, qui avait été ratifié par la République fédérale, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, et bien il a été torpillé par le Parlement français en août 1954. Mes chers confrères de The Economist, le contexte était tout autre. On sortait d'une guerre longue et douloureuse en Europe. L'opinion française était hostile au réarmement de l'Allemagne. Aujourd'hui, 64 ans plus tard, ce que les Français reprochent aux Allemands, c'est au contraire de négliger leur propre défense et de ne pas participer suffisamment à celle de l'Europe. Quant à la France, elle n'a cessé depuis les débuts de la Ve République de réclamer à ses partenaires européens qu'ils assument un peu mieux leurs responsabilités de manière indépendante des Américains. Avec son concept de souveraineté européenne, Macron s'inscrit dans le prolongement de cette tradition française. Mais chaque fois que les Français ont proposé à leurs associés de l'Union européenne des projets de création d'une force armée indépendante des Américains, ils ont été bloqués par les Britanniques qui redoutaient l'éclatement de l'OTAN. Et bien cette fois, admet The Economist, les choses se présentent différemment et d'abord parce que le veto britannique est levé. Mais surtout parce que Trump est considéré comme un allié peu fiable.
Mais Brice, certains gouvernements en Europe ne sont-ils pas tentés d'attendre que tout simplement l'épisode Trump se passe et que les relations avec les États-Unis retournent à la normale, business as usual, comme on dit, hein?
Sur le site Politico, Benjamin Haddad, un chercheur français qui est membre d'un think tank américain, l'Hudson Institute, fait ce constat. Les appels de la France à une défense commune de l'Europe ont de meilleures chances aujourd'hui d'être entendues parce que ses partenaires commencent à comprendre que la présidence Trump n'est pas qu'un mauvais moment à passer, après quoi tout redeviendrait comme avant entre les États-Unis et le vieux continent. Non, l'unilatéralisme américain est une tendance de fond qui précédait Trump et qui lui survivra. Trump est le nom d'un symptôme et non celui d'un tournant brusque qu'aurait pris la politique étrangère américaine. On a, c'est vrai, aujourd'hui le retrait américain du deal iranien qui pénalise sérieusement l'Europe, dépendante, elle, de ses approvisionnements pétroliers, contrairement aux États-Unis devenus autosuffisants. Mais avant, nous avons eu le lâchage de François Hollande par Barack Obama sur l'affaire, souvenez-vous, des gaz de combat en Syrie. Les Français ont compris parmi les premiers en Europe qu'il ne fallait pas trop compter sur les Américains parce que cela conforte notre tradition diplomatique tournée vers l'affirmation de l'indépendance nationale. Mais ce qui provoque un réveil des Européens, des autres, sur la nécessité de se défendre, ce sont les événements récents. Et je cite Haddad. Les agressions russes contre l'Ukraine, les attaques terroristes inspirées par Daesh contre l'Europe et la crise des réfugiés provoquée par l'effondrement des États syriens et libyens sont venus rappeler aux Européens la négligence dont ils avaient fait preuve sur les questions de sécurité. Mais ce réveil de nos partenaires est plus lent parce que plus tardif et on ne peut pas les empêcher de discerner derrière l'appel de Macron à une souveraineté européenne l'éternelle tentation française, celle d'imposer sa politique aux autres au nom de l'intérêt européen. Considérer l'Union européenne comme une plus grande France. Cette fois, cependant, ce que propose la France est plus original. L'idée de Macron, c'est la mise en commun de moyens au sein d'un club de taille réduite d'États européens volontaires, de ressources en personnel et en matériel. Une Europe de la défense à la carte et non pas au menu, ouverte d'ailleurs aux États européens non membres de l'Union européenne. De toute façon, souligne Benjamin Haddad, pour revenir à lui, même lorsque les Européens auront pris enfin conscience de leur négligence dans le domaine de la défense, eh bien il faudra plus d'une génération pour compenser la longue incurie de leurs gouvernants. En attendant, et malgré les rodomontades de Trump, ce sont bien les États-Unis qui supportent le poids principal de la sécurisation des frontières orientales de l'Europe face à la Russie de Poutine. Oui, il faudra du temps pour faire oublier aux Tchèques la manière dont nous les avons laissés tomber à Munich en septembre 38 et aux Polonais leur solitude face à la Wehrmacht en septembre 1939.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous poursuivez demain sur l'armée européenne.
Sur l'ordre de la défense dernier.
Merci beaucoup cher Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.